Alors que le Japon commémorait cette semaine l'anniversaire des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki il y a 67 ans, les évêques japonais ont eux publié un message en faveur de la paix. Pour eux, après Fukushima, dénoncer l'utilisation militaire du nucléaire ne suffit plus. Il faut que le gouvernement ferme à terme les 54 centrales nucléaires civiles du pays. Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami est l'archevêque de Nagasaki.
Nous espérons que le gouvernement doit prendre vraiment l'initiative de changer l'orientation vers l'abolition complète des centrales nucléaires. Nous savons aussi que ce serait difficile d'abolir tout de suite, immédiatement, toutes les centrales, mais comme le gouvernement de l'Allemagne a fait un grand changement, radical un peu, non ? Les évêques espérons que le gouvernement fera la même chose, au moins lancer la nouvelle orientation vers l'abolition complète. Absolu des centrales nucléaires.
Un an après le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima, la situation de certains Japonais reste encore aujourd'hui dramatique. En témoigne Jean-François Sabouret, chercheur au CNRS. Il revient du Japon.
Les pauvres gens, il y a des villes entières qui sont détruites et qui vivent sur les contreforts des collines et des montagnes, dans des maisons préfabriquées. Et avec le froid qui va arriver, les familles qui sont détruites. C'est incroyable, comment dire, d'abandon. Quand on entend qu'un monsieur qui a perdu sa femme et qui vit avec sa petite fille dans une maison préfabriquée doit continuer néanmoins à payer la banque pour la maison qui a été détruite, parce que c'est comme ça, c'est le contrat, détruite ou pas détruite, il doit continuer à payer, alors qu'il n'a plus sa femme, alors qu'il n'a plus de travail. On se dit, mais c'est plus que Kafka, c'est du Kafka à la puissance 10.
Au Moyen-Orient, en Syrie, cette semaine fut marquée par la défection du Premier ministre, le plus haut gradé à avoir jamais fait défection. Ce sunnite nommé il y a 2 mois seulement par le clan alaouite ne supportait plus les crimes de guerre et de génocide commis par le régime. Est-ce un coup dur pour le clan Assad ? Au-delà du symbole, pas vraiment. C'est ce que nous explique Fabrice Balanche, le directeur du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
Paradoxalement, ce n'est pas une menace parce que le régime préfère que les hauts gradés de l'armée sunnite, parce que c'est exclusivement des sunnites qui font défection, quittent le territoire syrien, aillent se réfugier en Turquie ou en Jordanie, parce qu'ainsi, ils ne risquent pas d'organiser un coup d'État contre le régime. Les cadres s'en vont, les conscrits ensuite désertent, mais vous n'avez pas de régiment, de division entière qui se sont retournés contre le régime du fait de l'hémorragie des cadres.
Selon Fabrice Balanche, l'armée loyale à Bachar el-Assad cherche à faire plus peur encore que les rebelles pour se maintenir au pouvoir. Résultat, des pilonnages massifs à Alep notamment, la réplique armée bien sûr des opposants au régime et au final, la fuite encore de civils. Aujourd'hui, plus de 276 000 Syriens se seraient réfugiés en Jordanie, en Turquie ou encore au Liban. C'est là que se trouve Caroline Nanser, membre de la Caritas Suisse. Chaque jour, les réfugiés syriens se confient à elle.
Les familles leur les raisons pour lesquelles ils sont partis, soit le fait d'avoir vu quelqu'un se faire assassiner devant leurs yeux, soit le fait d'avoir eu sa maison bombardée ou d'avoir quelqu'un qui a disparu. Maintenant, nous savons que cette violence provient autant d'un côté du régime que de l'armée syrienne libre.
11 morts en 2 jours. Les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont connu un regain de violence cette semaine. Des hommes armés ont attaqué une série de postes de contrôle tenus par les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara, le président. Pour Michel Galli, chercheur au Centre d'études sur les conflits, il faut remettre ces événements dans le contexte des élections et des violences post-électorales de l'an dernier en Côte d'Ivoire.
Même si on regarde le résultat des élections, M. Ouattara est en quelque sorte minoritaire sur Abidjan et dans le sud. Alors on a une situation très curieuse où l'armée officielle, la gendarmerie et la police sont désarmées. Il n'y a uniquement les forces, les FRC pro Ouattara qui sont armées et qui eux-mêmes commettent de nombreuses exactions. C'est un peu beaucoup cette justice des vainqueurs, la monopolisation par les pro Ouattara de tous les leviers de l'État et qu'une vraie réconciliation nationale évidemment passerait par des mesures exactement inverses pour favoriser bien sûr une sécurité plus grande dans la capitale et à l'intérieur du pays.
Une prière universelle pour la France. Le jour de l'Assomption, de nombreux médias français ont perçu cette initiative des évêques comme une prise de position politique contre le mariage homosexuel. Un fourvoiement, Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, rappelle le sens spirituel de cette démarche.
Dans la proposition des évêques, il n'y a pas un calcul, il y a une préoccupation et ils proposent, dans les moments où il y a vraiment des grandes décisions à prendre, qu'on demande la force spirituelle, le discernement pour les résoudre. Les évêques confient à la prière d'abord toutes les victimes de la crise. Et quand on demande dans une démarche spirituelle l'inspiration, on demande la force d'être serein et d'être déterminé dans la capacité de dialoguer. Et la préoccupation qui est évidemment très grave concernant la fin de vie, la famille, cette préoccupation, il faut d'abord demander l'éclairage spirituel.